Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi à 18h. On est heureux de vous retrouver pour une émission un peu spéciale cette semaine. C'est vrai que d'habitude on fait des allers-retours entre le passé et le présent. Cette semaine on est vraiment full dans le présent. Mais alors quel présent ? J'avoue que je ne boude pas mon plaisir. L'artiste qu'on va recevoir cette semaine. Tiens, regardez, une petite photo peut-être ? Regardez, voir si on la reconnaît.
Ah !
Regardez cette petite bouille. Et j'aime bien, je crois que la légende qui accompagnait la photo disait à une époque où, où les choses comptaient pour l'instant présent et où on ne se posait pas de questions.
Ouais.
On reçoit aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, parce que je le dis franchement, l'une des plus belles voix de la chanson française d'aujourd'hui. Je suis ravi. Ça fait des mois que j'avais envie de la recevoir depuis que j'ai découvert cet artiste dans The Voice et puis que je l'ai vue aussi sur scène dans Notre-Dame de Paris. On va revenir évidemment sur ce parcours et on reçoit pour la sortie de cet album événement live de l'Olympia en 2024 Iba Tawaji qui est avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, je suis très touchée.
Je suis très content de vous accueillir parce que vous avez un parcours qui est assez dingue. Vous êtes peut-être l'une des seules candidates de The Voice que les coachs reconnaissent quand les fauteuils se retournent, parce qu'on va le voir, vous avez une belle carrière aussi en dehors de notre territoire. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir et on va, je pense, faire des passerelles avec plein de choses aujourd'hui. Avec d'abord Lola qui est avec moi. Ça va, ma Lola ?
Ça va et toi ?
Bah oui, très bien. Lola, chaque semaine, tu nous fais des recos littéraires.
Absolument.
Et là, tu t'es intéressée pile à notre sujet. Tu t'es dit, bah oui, on va essayer d'être synchrone. Donc, tu t'es intéressée à un livre qui parle carrément du Liban, c'est ça ?
Il s'appelle Beyrouth sur scène. Je garde un peu suspense,
wow.
Mais c'est un énorme coup de cœur. Et c'est un livre qui est très beau et qui parle de transmission et de plein d'autres choses.
Et ben justement, on va en reparler tout à l'heure avec toi et je suis ravi qu'on puisse le faire. Et puis notre deuxième invité va nous rejoindre. Les problèmes de train quand on vient à Paris, mais c'est ça, c'est qu'on peut s'y confronter. Mais vous allez découvrir une personnalité qu'on avait déjà reçue dans cette émission. Elle s'appelle Soundouz Moustarim. Elle sort un livre qui s'appelle Mon chemin de foi. Et c'est son lien et sa découverte assez tardive d'ailleurs de la religion et de comment justement elle en a fait son chemin pour essayer d'aller mieux dans la vie, notamment depuis qu'elle est devenue maman. Et vous avez découvert, c'est quelqu'un qui est très positif, très solaire, très lunaire. Et j'avais envie vraiment que ces gens puissent se rencontrer autour de ce plateau et de faire une grande et belle émission. Comment ça va, Iba ?
Ça va très bien.
Parce que il est là, ça y est ?
Oui, il est là.
Il est là, on ne peut pas le nier, là, ça y est, c'est parti.
Moi, j'en ai rêvé, le voilà.
Ça fait quoi ? On va revenir tout à l'heure, mais quand on voit son nom en lettres sur la façade de l'Olympia, ça fait quoi ?
C'est assez dingue, c'est un rêve de jeune fille, j'en ai rêvé longtemps. Quand je venais visiter Paris, parce qu'il y a quelques années, j'étais encore touriste à Paris.
Oui.
Donc quand je passais devant l'Olympia, je me disais que je rêverais de voir mon nom sur cette façade un jour comme ça en rouge. Et là aujourd'hui de vraiment concrétiser ce rêve, c'est assez dingue.
Et puis d'avoir pu se produire sur scène avec Florent Pagny, Lara Fabian notamment, Madame Monsieur et puis évidemment Icar qui est pareil un comédien que moi j'avais découvert il y a quelques années dans La Nouvelle Star et qui est un des grands auteurs aujourd'hui et un formidable artiste et puis on y reviendra tout à l'heure aussi Ibrahim Malouf qui est à vos côtés sur scène. On va y revenir parce que cet album il est incroyable, mais au même titre que votre parcours, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu par quoi vous êtes passé. Seule incartade qu'on va faire dans cette émission, à nos allers-retours entre le passé et le présent, c'est juste pour rendre hommage à un artiste qui vient de nous quitter, mais qui a bercé évidemment les années 80 de plein de gens. Dans les années 80, c'est les années 60 qui reviennent au cœur de l'actualité et qui reviennent grâce à plein d'artistes qui se réapproprient les années 80, les années 60, pardon, et notamment ce groupe que les Français découvrent dans les années 80, qui vont durer pendant une petite dizaine d'années. Ils se forment à la fin des années 70, en 1978, réapprovisionnant le rockabilly. Ça s'appelle les Forbans, si vous en avez entendu parler, et son interprète principal, qu'on appelle Bébert, nous a quittés. Les Forbans, si vous ne connaissez pas, je vous défi de ne pas avoir dans la tête le titre que vous allez entendre maintenant. J'ai choisi celui-là, c'est pas forcément le plus connu, mais c'est celui qui reste le plus en tête. Voilà, Bébert nous a quitté à 62 ans il y a quelques jours. On avait envie de lui rendre hommage puisqu'il fut notre invité il y a 2 ans dans cette émission. Regardez.
Tout ça, vers moi, ça veut dire adopter le même pas, c'est le flip-flap,
retenez ces mots-là et vous ferons danser tout comme moi. Flip, flap, c'est facile, flip, flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le flip and flap.
Voilà, et c'est effectivement Lola qui est la cadette de cette émission. Je ne pensais pas que c'est elle qui nous apporterait une citation, mais effectivement, chante, danse et met tes baskets. C'était effectivement les Forbans. Bébert fut notre invité, je le disais, il y a 2 ans. On avait pu revenir sur le parcours du groupe. Je crois qu'on a une petite photo de lui dans ce studio. C'était évidemment un groupe qui continuait à travailler au fil des années, à se produire en gala. Voilà, c'était ici il y a 2 ans. Et puis, voilà, ça a été un peu une surprise de découvrir sa disparition d'une longue maladie contre laquelle il se battait depuis 3 ans. Voilà, on avait envie de pouvoir faire cette petite dédicace à Bébert. On revient à notre invité. Dans un instant, Soundous Moustarim va nous rejoindre. Je l'espère que les transports parisiens n'auront pas raison d'elle. Mais on revient évidemment à Hiba Tawaji. Je le disais, pour moi, l'une des très très belles chanteuses françaises. Une voix magnifique. Et en plus de ça, elle a bon goût, cette jeune femme. Je parlais des années 60. Il se trouve que, alors, c'est un truc dont je parle peu dans cette émission parce qu'on a peu l'habitude, mais moi, j'ai une passion dans les années 60. Ah, je vais vous en parler après. Mais j'ai une passion pour les crooners américains et j'adore des chanteurs comme Sinatra, comme Nat King Cole. Et notre invité, Hiba Tawaji, je crois que l'une de ses chansons préférées renvoie aussi à cette époque-là. On va voir un petit extrait et puis on en parle après. Regardez.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow.
Quelle est belle cette reprise.
Magnifique, un concert de Noël.
De Smile, cette reprise, évidemment, qu'on a redécouvert avec le film Joker, mais ce titre-là, je crois que vous aimez, aimez beaucoup.
C'est un de mes préférés.
Et il y a un peu ça, je trouve, quand on écoute un peu tous vos titres, que ce soit les chansons de Noël ou certaines reprises, il y a cette sonorité-là, un petit peu, qui renvoie à ces crooners américains dans votre musique.
Il y a forcément une influence un peu plus jazz, un peu plus soul. C'est aussi la musique que j'écoute beaucoup et donc ça m'inspire aussi peut-être inconsciemment.
Comment vous décrirez justement votre univers, parce que il est tellement riche et multiple que on serait bien en peine d'y mettre une étiquette.
Mais en fait, je ne saurais pas mettre un titre ou mettre tout ça dans une seule case. Je pense que c'est peut-être tous ces mélanges qui font que à la fin il y a une identité artistique qui est vraiment soulignée et créée à travers tous ces mélanges, que ce soit des mélanges de genres musicaux, de langues, de cultures, de styles, etc. Donc j'ai du mal moi-même à classer tout ça, donc je me dis que c'est de la musique qui me parle, qui me touche, que j'aime transmettre. Je pense que peut-être le principal point commun entre tout ça, c'est peut-être ma voix qui relie tout ça, parce que c'est quand même, quand on écoute toutes les chansons, la voix, elle est très présente, elle est vraiment mise en avant.
Je suis d'accord, elle est très, très pure, cristalline. Enfin voilà, c'est à la fois vous avez une voix, comme on dit, et en même temps, on sent que elle est toujours très maîtrisée. C'est-à-dire que le danger, quand on a une grande voix, c'est de vouloir à tout prix faire de la démonstration vocale. Et on sent que vous n'êtes jamais dans la démonstration vocale. Comme si vous arrêtiez à la note qui va vous emmener dans un truc qui serait beaucoup trop over the top, quoi.
Pour moi, la voix, c'est aussi un outil. Donc, je m'en sers dans un contexte, que ce soit par exemple les paroles ou bien la mélodie telle qu'elle est composée. Je pense que sans vraiment réfléchir, la voix, elle exprime ce qu'on ressent. Donc, c'est pas vraiment une démonstration, c'est surtout de l'émotion et de l'interprétation. Donc, quand il le faut, oui, la voix, elle est là et il y a peut-être une certaine performance vocale quand c'est vraiment voulu ou quand c'est vraiment, justifié. Mais quand c'est pas justifié, c'est là que ça devient peut-être un peu too much.
D'ailleurs, c'est intéressant quand on revoit les auditions à l'aveugle, par exemple, de The Voice. C'est pas sur les parties où vous montez très très haut que les gens se retournent. C'est sur cette espèce de sensibilité où, hormis Mika, qui je crois vous reconnaît quand il entend votre voix, finalement, c'est sur cette sensibilité-là que l'on vous retrouve, quoi.
Mais c'est surtout l'émotion et l'interprétation qui va toucher les gens au tout début.
Et en plus, ce soin, alors toujours très apporté. À votre look, c'est-à-dire que vous êtes toujours hyper méga classe. Enfin, sur toutes les photos, quand on vous voit, non mais c'est-à-dire c'est la
je suis en jean.
On revoit, non mais c'est pour l'émission, évidemment vous en veux pas, mais c'est toujours le sens
l'élégance.
De ouais.
En fait, c'est l'élégance et vocale et qui du coup se répercute dans tout.
Ah, merci.
Un peu là le sens du mot, on l'a beaucoup utilisé pour des grands noms de la chanson américaine, mais le sens du mot diva, avec le sens le plus noble du terme, trouve tout son impact.
Pas dans le sens
dans le côté vraiment pur et noble comme il y avait avec certaines très grandes chanteuses. On peut penser même à Céline Dion par exemple ou des gens comme ça. Là, c'est à l'Olympia,
oui.
Évidemment. L'Olympia, on va basculer. Je crois qu'on a une photo de la façade parce que moi, ça me fascine toujours. C'est toujours quelque chose qui revient.
Oui.
Quand les gens font l'Olympia, c'est les lettres rouges
qui
s'affichent dessus. Vous nous l'avez raconté un petit peu tout à l'heure. On passe devant quand on est touriste, forcément. Mmh. À un moment donné, c'est pas loin de l'Opéra Garnier. Mmh. C'est une émotion particulière de voir son nom.
Oui, mais c'était tellement... C'est terminé tellement vite qu'à la fin, j'avais un peu... Le blues, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le refaire?
Vous allez le refaire, forcément.
Oui, ben oui. Mais non, c'était assez marquant. Ouais.
Et comment vous avez choisi justement les titres qui allaient figurer sur cet album? Parce qu'évidemment, ils n'y sont pas tous. Mais c'est surtout beaucoup de collaborations et de rencontres qui se sont faites sur scène. Mais comment on choisit les 9 bons titres?
Oui, alors pour le vinyle, il fallait limiter, parce qu'on est limité par la durée. Donc, il fallait limiter le choix. Et donc, j'ai sélectionné toutes les chansons où figurent mes invités, tous les guests qui étaient là. Donc, il y a toutes les chansons avec les featuring et aussi 2 chansons phares de mon répertoire en arabe. D'accord. Voilà, donc il y a 9 titres en tout.
Ah ouais. Et c'est... Alors, franchement, allez-y parce que vous allez vraiment vous régaler. Alors, je ne ferai pas la prononciation des titres en arabe. Parce que déjà qu'en anglais, Lola pourrait vous le dire, c'est une catastrophe. Alors en arabe, je ne vais pas le faire. Il y a notamment, évidemment, cette magnifique reprise des Moulins de mon cœur que vous avez fait en arabe, qui était un petit bijou dans The Voice. Et puis, non, je ne le dirai pas. Et puis un autre titre qui est le cinquième de la première face de votre répertoire, parce que vous avez un répertoire. C'est ça la grande force de votre arrivée en France quand on vous découvre dans The Voice, c'est que vous n'êtes pas une inconnue. En tout cas, vous êtes connue notamment
dans le
monde arabe. Et ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que les coachs se retournent et Mika vous reconnaît tout de suite, quoi.
Mais c'était pas facile parce que souvent, j'avais lu quelques commentaires qui m'avaient peut-être un peu... pas vexée, mais qui m'avait peut-être un peu touchée à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec ça. On m'avait dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire à The Voice? Elle a déjà sorti des albums, elle est déjà connue. Oui, mais du coup, c'est 2 fois plus de pression.
Bien sûr.
Parce que moi, quand j'accepte de venir... parce que c'est le directeur de casting de The Voice qui m'a proposé de participer à l'émission. Au début, j'ai dit non, parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est un risque à prendre. J'ai un public qui me suit. J'ai sorti quelques albums. J'ai fait des concerts partout dans le monde arabe. Donc, non, je ne veux pas de cette pression-là, de ce risque-là, etc. Donc, j'ai dit non au tout début. Après, j'ai réfléchi. Et pour moi, The Voice, c'est un énorme tremplin pour la France. Et moi, j'ai toujours rêvé de créer un lien avec le public français et francophone à travers aussi la chanson française. Parce que j'ai grandi aussi en chantant et en écoutant la chanson française. Donc, je me suis dit, c'est peut-être ça l'opportunité, c'est peut-être ça, c'est une porte qui s'ouvre. Donc voilà, j'ai rappelé Bruno.
Bruno Berberès.
Bruno Berberès, voilà, exactement. Je lui ai dit, allez, on y va. Donc, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que je suis quand même aussi grâce à ça en France aujourd'hui. Donc pour moi, c'était un très, très beau souvenir. Mais beaucoup de pression du coup, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient, qui mettaient vraiment la pression.
Quel chanteur vous a accompagné quand vous étiez petite et que vous étiez au Liban peut-être et qui vous ont donné envie évidemment de venir chanter en France?
Bah, les divas.
Ouais, voilà.
les grandes voix de Céline Dion, de Whitney Houston, Mariah Carey, Barbara Streisand, de Lara Fabian aussi. Fairuz aussi qui est voilà, notre diva du Moyen-Orient et du monde. Toutes ces grandes voix.
En vous entendant chanter d'un seul coup, en ayant votre voix qui est là, je repense à une artiste et sur un titre sur lequel je me dis que vous seriez hallucinante de vous entendre dessus. La jeune public la connaît moins, mais on l'a redécouvert il y a quelques jours à l'occasion d'un hommage à Serge Lama. Je pense à Nana Mouskouri. Mmh. Et je me dis que vous entendre chanter une chanson comme L'amour en héritage, par exemple, avec la musique de Cosma derrière, je me dis que ça aurait un impact certain.
Bah, Mika m'avait dit la même chose.
C'est vrai ?
Elle m'avait dit, j'aimerais bien t'entendre sur la chanson de Nana Mouskouri. Oui.
Mais je ne sais pas, il y a cette espèce de côté de la voix très cristalline qu'on retrouve chez Nana Mouskouri. Évidemment, une chanteuse qui, pareil, vient de Grèce et qui a fait une grande carrière dans le monde entier, à l'international. Ouais, ce serait intéressant. Mais sur cet album, voilà, il y a 9 titres. Il y en a un qui est une pépite, qui est Les Cèdres, que j'ai adoré, que vous chantez avec Icar et Ibrahim Malouf qui vous rejoint à la trompette. Et c'est un moment qui est incroyable, quoi. Mm. Cette chanson qui symbolise évidemment votre pays, je crois.
Oui, ben, c'est un hommage à nos racines au Liban, mais c'est aussi un hommage à la langue française, la France, la francophonie. On est tous les trois franco-libanais, donc... C'est aussi un titre qui nous ressemble et nous rassemble tous les trois. Et il figure sur l'album d'Icar aussi, également.
Qui est un titre splendide. Et en plus, en live, ça rend encore mieux. Je crois que notre invité Soun est arrivé. Donc, on va la faire rentrer pendant la pause, la petite partie musicale. Parce que nous, ce qu'on aime bien dans cette émission, c'est évidemment comprendre d'où viennent nos invités, leur parcours. Et c'est pas évident de retrouver des moments vous concernant. Parce qu'on n'avait pas envie de s'arrêter au fait que vous ayez été connu en France par The Voice. Alors... l'oiseau qui renaît de ses cendres, je vous ramène en 2008. On est sur scène et la puissance vocale de notre invité est déjà là. Regardez ce petit extrait d'un spectacle musical. Et puis on va accueillir Soun qui nous rejoint dans ce plateau pendant la vidéo. Regardez.
حب يا مصلوب عن كل الشعوب
يا حب يا مصلوب عن كل الشعوب يا حب
يا مصلوب عن كل الشعوب.
On est donc en 2008, c'est un spectacle, on reconnaît déjà quand même la patte de la comédie, la comédie musicale qui s'appelle, je crois,
Le retour du phénix.
Ouais. C'est votre premier, je crois que c'est un des premiers spectacles.
Première
que vous
fois
faites.
Que je monte sur scène.
Là, c'est la première fois que vous montez sur
première
scène.
Fois, oui.
Ah oui.
Ça va. Tranquille, vous étiez à l'aise. C'était, vous faisiez quoi avant comme parcours? Vous aviez fait quoi
pour arriver... J'étudiais le cinéma, les arts du spectacle et tout ça. J'étais juste étudiante et j'avais des rêves. Voilà. C'est où j'ai rencontré mon producteur et mentor, on va dire, Oussama Al-Habani, qui y a produit et composé ce spectacle. Et c'est lui qui m'a proposé de participer à ce spectacle en tant que premier rôle féminin.
Et la voix est là. Tout est déjà parfaitement en place. J'en profite pour saluer Sounous Moustarine qui est avec vous.
Bonjour à vous.
T'as vu, je l'ai...
Tu l'as glissé.
Je l'ai glissé facilement comme ça, d'une traite. Pourtant, j'essaie de ne pas trop m'avancer quand les mots sont plutôt compliqués. On va y revenir dans un instant sur ce livre que tu viens de sortir et qui, j'ai l'impression, marche plutôt bien.
Ça va, j'espère.
Ah, on croise les doigts. On t'a reçu il y a 2-3 ans,
ouais,
déjà.
Oui, il y a 2 ans,
dans
ans,
cette émission. On va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, j'avais envie que les gens puissent se croiser et se rencontrer autour de ce plateau. Je reviens à Iba. le spectacle musical, la comédie musicale, vous en avez fait effectivement plusieurs. On n'a qu'une envie maintenant, évidemment, c'est aussi de vous voir longtemps au cinéma dans des grands rôles. Et qu'est-ce qui vous animait? C'était vraiment ce mélange spectacle musical et le jeu sur scène qui vous a guidé vers la comédie musicale?
Pour moi, ils sont complémentaires. Pour moi, que ce soit le jeu ou le chant, ou ce sont des outils pour s'exprimer, pour faire passer des émotions. Et donc, j'ai choisi de faire des études de cinéma parce que je trouvais que ça complétait aussi le fait de monter sur scène et de chanter. Et ça m'a beaucoup aussi donné un bagage aussi assez intéressant et enrichissant pour quand je suis sur scène.
Pour se mouvoir, pour savoir comment se positionner, poser.
Exact, ouais, être complètement à l'aise dans le fait d'être sur scène et de communiquer des choses.
Que ce soit pas factice quand on parle. Il y a rien de pire que sur une scène quand les chanteurs veulent même parler avec le public et qu'on a l'impression que il y a le prompteur qui vous dit ce qu'il faut dire et où c'est pas naturel. Je crois que vous avez même réalisé un court-métrage, il me semble.
Oui, un court-métrage.
Vous avez joué dedans ou pas?
Non. J'étais derrière la caméra.
Mais du coup, ça, la bascule de la comédie musicale où on joue et on chante, au fait de jouer, c'est quelque chose que vous avez envie d'exploiter à l'avenir, ou est-ce
peut-être
que...
oui, un jour. Je me dis que c'est un rêve, mais pas maintenant. Maintenant, je voudrais vraiment me concentrer sur la musique et les concerts et les albums et tout ça.
Et on a envie d'en avoir plein d'autres, parce que quand on a écouté celui-là et qu'on a écouté les autres, je le disais tout à l'heure, on a envie de se replonger dans cet univers-là. Tu connaissais le parcours un peu de Iba ou...
J'ai connu à travers The Voice,
ouais.
Quand il y a eu ce retour et toute cette présentation. Mais je ne connaissais pas, et je veux dire que c'est un parcours qui est magnifique. Et je pense qu'il doit inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteurs et de chanteuses de se dire que c'est possible de faire autant de choses. C'est possible de changer de pays et arriver... et avoir un succès extraordinaire et pouvoir faire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se limite pas à un parcours, à une capacité, à un pays, qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut si on croit en ses rêves. Et je trouve que c'est un très beau parcours.
Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on veut forcément mettre des cases, des titres sur les choses. On accepte moins la diversité, ce mélange, cette liberté artistique, mais je pense que c'est intéressant de montrer que c'est possible
et que c'est une richesse en plus.
Et que c'est une richesse venant d'un pays comme le Liban, qui est un pays qui a une grande richesse mais qui en même temps traverse des choses terribles depuis de nombreuses années. C'est important pour vous d'être aussi cette ambassadrice de votre beau pays à travers le monde et à travers vos spectacles.
J'essaye en tout cas d'être complètement authentique et je pense qu'on a une plateforme assez large pour pouvoir aussi bien représenter nos pays, parce que je pense que parfois à travers peut-être les médias ou la politique, il y a des vérités qui sont fausses, qui sont faussées.
Au mieux des raccourcis, voire voilà,
des raccourcis et tout ça. Donc, je pense que nous, les artistes, on a cette faculté et cette plateforme qui nous permet de parler de nos racines, de bien représenter d'où on vient, de rendre hommage, de célébrer aussi nos racines, parce que c'est ce qui aussi nous démarque et nous rend unique. Après, je suis complètement ouverte à d'autres cultures. Aujourd'hui, je me sens aussi complètement française. Et je pense que c'est juste important de savoir d'où on vient pour savoir où aller, quoi.
Et de le savoir, il y a un personnage que vous avez incarné qui, je trouve, symbolise pleinement toute cette grande mixité. C'est le personnage d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris que vous avez repris. Alors là, attention, c'est le moment où on peut sortir les Kleenex. Moi, à chaque fois que j'entends cette reprise de Iba, ça me fout les poils à chaque fois au minimum. Parce qu'évidemment, un mec, ça ne pleure pas, c'est bien connu. Eh bien si, j'assumerai ce qui se passera dans ce studio.
Changer l'histoire. Sans rien attendre en retour. Aimer
pas plus haut que la bonne note. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est absolument magnifique. Quand je vois cette séquence-là, je me dis, il faut mettre Iba dans une comédie romantique, genre Notting Hill ou un truc comme ça. Il y a la place de Julia Roberts. Enfin voilà, ça ferait tellement l'affaire. Mais cette chanson, d'abord, elle est magnifique. De Plamondon est cochante. C'est compliqué quand il faut se la réapproprier quand on arrive dans le spectacle pour passer après, voilà, ces interprètes qui l'ont chantée en France et dans le monde.
On l'a tellement écoutée. Ça fait partie de notre inconscient collectif, Notre-Dame de Paris. C'est moi, je connaissais déjà le spectacle, le DVD, je l'avais chez moi.
Usé.
Usé, l'album également. Donc, il fallait être complètement détaché, mais en même temps fidèle à la chanson. Donc, il fallait rapporter notre petite touche tout en étant fidèle à l'écriture de la chanson.
Quand on arrive sur scène comme ça et qu'on incarne ce personnage iconique, cette âme en détresse qui essaye de sauver comme elle le peut ce Quasimodo face aux intégristes de la religion qui est symbolisé par Frollo, c'est des thématiques qui évidemment sont extrêmement contemporaines, mais voilà, c'est un personnage qui est fort, quoi, de Victor Hugo.
Très fort. Mais aussi, ce qui est dingue, c'est que c'est d'actualité. À aucun moment on sent qu'il y a un truc dépassé ou daté. C'est vraiment un spectacle intemporel à tous les points de vue.
Est-ce qu'on est plus attendu par le public et qu'on est beaucoup plus critiqué quand c'est un rôle qu'on a l'habitude de voir déjà être joué par d'autres personnes, ou au contraire, on aime déjà ce rôle et le public accroche beaucoup plus vite?
Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a quand même un public qui est très attaché au spectacle, et j'en fais partie. Mais je pense aussi qu'avec la nouvelle troupe, on a quand même réussi à rapporter aussi notre touche. Et donc c'est ce qui a fait aussi que ça a duré aussi longtemps. C'est-à-dire que on a le grand retour, c'était en 2016, et là ça continue.
Ouais. Donc et vous êtes allé dans le monde entier, vous avez tourné dans le monde entier avec le spectacle.
Là ils sont en ce moment, ils sont je pense en Corée ou en Chine. Moi j'y suis pas allée, mais en ce moment ça tourne encore.
Parce qu'il y a une tradition sur les comédies musicales, c'est souvent que vous avez une équipe française, puis vous avez une équipe qui est dédiée à l'international et qui se produit à l'international. Là c'est vous qui êtes parti dans le monde entier,
oui.
Avec évidemment, on le voit sur la photo, la persistance de Daniel Lavoie. Qui est un chanteur incroyable et qui joue un Frollo absolument terrifiant. Regardez, alors là, c'est la séquence. Autant vous dire que là, si tu connais, c'est Belle, voilà, exactement. Évidemment, un titre iconique, avec toujours ce mur d'escalade pour symboliser les remparts de Notre-Dame. Et cette position, moi, je vous ai vu sur la scène du Palais des Congrès. J'avais vu le spectacle uniquement en DVD, je ne l'avais pas vu sur scène, l'original. Et de redécouvrir ça sur scène avec vous tous, je trouve qu'effectivement, vous êtes une Esmeralda absolument impeccable, mais complexe.
Et puis, c'est une figure aussi de femme forte, Esmeralda. C'est aussi important de resituer un peu dans l'œuvre, en disant que c'est une femme qui s'est battue, qui se bat pour sa liberté, qui se bat pour Quasimodo, qui se bat contre l'intégrisme, contre beaucoup de choses. Et je trouve ça hyper chouette, justement, que ce soit incarné par des femmes fortes qui puissent jouer encore des rôles qui sont des rôles de femmes qui sont courageuses, qui se battent pour des belles valeurs. Donc,
disons d'un pays comme le Liban, avec toute cette pluralité culturelle qu'il y a, ça fait sens encore plus.
Forte, oui, bien sûr. Elle a grandi dans les rues de Paris, donc elle a quand même un courage et une forte personnalité. Mais en même temps, il y a aussi la deuxième facette qui est un peu plus vulnérable. Elle est quand même assez fragile, assez vulnérable, et elle est là dans un monde très masculin. Donc, on la voit vraiment quasiment tout le temps entourée de ce monde masculin. Donc, il y a aussi quand même une certaine vulnérabilité chez elle.
Il y a aussi le personnage de Fleur de Lys, mais c'est vrai qu'elle est quasiment toute seule. Et ça va jusque à cette fin qui est évidemment toujours, toujours bouleversante.
Tragique.
Et avec ces titres qui sont très importants. On a parlé de Vivre. Est-ce qu'il y a des titres qui sont plus difficiles encore à chanter dans ce spectacle-là? Ou est-ce que c'est vraiment celui? Parce que ça monte, hein.
Ah oui, Vivre, c'est surtout, en tout cas pour moi, c'était sur scène, c'était le fait de la chanter sur une colonne et sans être attachée.
Ah oui, même pas. Voilà. On n'a rien.
Non. Et c'est une colonne qui bougeait, voilà, qui. Et moi, j'ai un peu le vertige, donc se lever sur la colonne, pour moi, c'était à chaque pendant 8 ans, chaque soir, c'était un défi de se relever, de se lever, d'être complètement en train de trembler et de chanter comme si de rien n'était. Donc, c'était un vrai défi.
Des vraies émotions, quoi.
Ouais, durant la chanson. Vrai défi. Mais après, moi, j'adore toutes les chansons de Frollo.
Ouais,
j'adore. Et les chansons de Gringoire, donc, sont mes préférées.
Et la chanson certainement la plus difficile, parce que Dieu sait qu'il y a des chanteurs qui se cassent la figure dessus, y compris dans la Starac. C'est le temps des cathédrales.
Ah oui.
L'ouverture du temps des cathédrales qui est absolument, absolument vertigineux. En tout cas, voilà pour ce grand et beau spectacle de Notre-Dame de Paris à redécouvrir, évidemment. Et c'est un monument. C'est un monument. J'en profite pour saluer quelqu'un qui, qu'on a reçu aussi dans ce plateau et qui avait été l'occasion de parler de vous. Parce que vous êtes bien habillé avec cette couleur qui profile à ce studio. Ce rêve bleu. Nous avions eu le plaisir de recevoir Julien Aluguette dans ce plateau.
Mon Aladdin.
Ton Aladdin, puisque dans la version live de Aladdin, vous étiez les deux héros qui interprétaient les versions chantées de Aladdin en français.
Oui, pour le film. Pour,
De Guy Ritchie, je crois, c'est ça. Hein.
Oui, le dernier Aladdin. Donc oui, c'était aussi c'était une belle expérience. J'avais jamais fait de doublage avant. Donc j'ai fait la voix chantée et parlée. C'est pas facile. On pense que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. C'est un vrai métier dur et complexe. Mais j'ai adoré cette expérience.
Ah oui, et nous avait raconté combien il était, effectivement, il avait été heureux de partager ce moment avec vous. J'en profite, Julien Aluguette, évidemment, qui aussi est comédien, puisque vous le voyez vous l'avez vu pendant longtemps dans Ici Tout Commence, mais c'est aussi un grand metteur en scène de spectacle. Et en ce moment, c'est lui qui signe notamment la mise en scène du Fantôme de l'Opéra, pour lequel on a reçu Benoît Solès ici. Et puisqu'on parlait d'Aladin, j'en profite pour avoir une pensée, parce que je la cite à chaque fois, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'importance dans le milieu du doublage, notamment de Disney, qui avait beaucoup d'importance dans cette émission, c'était une de nos marraines. Je crois que vous avez travaillé avec elle tous les deux, c'était Claude Lombard, qui a beaucoup travaillé, c'était une directrice artistique,
bien sûr.
Qui était très connue en France, parce qu'elle a chanté beaucoup de génériques de dessins animés, et qui nous a quittés il y a 3 ans. Voilà, et j'avais envie de la citer, parce que c'est vrai que dans l'univers de Disney, elle a beaucoup accompagné les artistes, évidemment, si vous vous souvenez de La Belle et la Bête, de La Petite Sirène, c'est elle qui avait guidé les versions chantées de cette grande dame qui était aussi choriste de Charles Aznavour. Donc voilà, c'était. Je voulais la citer. Évidemment, donc, il y a eu The Voice, ça c'était en 2015, voilà, c'était il y a 10 ans. Bah, 10 ans cette année, c'est 10 ans. Oh là là 10 ans de
Voice. Il n'y a pas beaucoup de changements.
Il n'y a pas beaucoup de changements.
Je peux me permettre, il n'y a pas beaucoup de changements.
Moi, je le vois, le
changement. On ne voit pas de changement.
Moi, dans The Voice, j'ai deux voix iconique comme ça au fil des années, c'est Iba et c'est Ancilla.
Oui, c'est la même promo.
C'était la même saison. Ah non, je me souvenais plus que c'était la même saison. Ben voilà. Et Ancilla qui est une voix incroyable. Et puis, puisqu'on approche tranquillement des fêtes, je crois qu'on a une petite. Le prochain visuel, je voulais le mettre en avant parce que c'est un magnifique disque. Le Alléluia de Iba Tawaji. On parlait des divas. On revient à ça. C'est l'album de Noël incarné à la fois par les crooners américains des années 60, 70, et puis les grandes divas. Chacun enregistre son album de Noël.
Oui.
C'est ça que vous avez voulu restituer comme tradition ?
Oui, je pense que pour moi, c'était important d'avoir aussi un album de Noël. Rien qu'un, rien seul. Ouais, c'est, j'adore cette... J'adore la période de Noël et toutes les chansons de Noël, ça me replonge dans l'enfance, donc j'adore ça.
Mais c'est pas simplement un album de Noël, on aurait pu se dire elle va reprendre les classiques. Non, c'est les classiques, mais à votre manière aussi, et avec ce mélange aussi
arabe-français-anglais
qui est incroyable et qui redonne une couleur particulière à ces titres. Ils sont tous magnifiques, mais y a des titres que moi je ne connaissais pas. Comment on choisit les bons titres de Noël qu'on va écouter au pied du sapin ?
Il y en a tellement, je ne sais pas comment j'ai pu choisir, honnêtement. Je pense que j'ai choisi les titres qui me parlaient plus que d'autres quand j'ai enregistré l'album, mais on a encore tellement. Je pense que je ferai tome 2, tome 3. Tome 4.
on va inviter les gens à mettre des titres comme ça au lieu de mettre Maria Carré, parce qu'on n'en peut plus.
Mais honnêtement, alors moi, je vais vous
on
dire...
On n'en peut plus sur les réseaux sociaux.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je ne connaissais pas cet album de Noël.
Je ne sais pas, je vais découvrir.
Je l'ai découvert hier pour préparer l'émission.
On va lancer la traîne.
C'est une bombe atomique.
Allez,
pas de Maria Carré cette année.
Alors, j'ai une deuxième option à vous proposer, parce que c'est un album de Noël que moi, j'ai découvert. Alors, je suis désolé, je vais faire de la pub pour quelqu'un d'autre que vous.
Mais bien sûr.
Chez Ariba. Mais je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. Parce que c'est un très, très bel album de Noël. Et là aussi, c'est une très, très belle relecture. Je l'ai là. Il se trouve que je me l'étais acheté. J'avais adoré cet album.
Ah !
Voilà.
Évidemment.
First Noël.
La famille.
La famille.
Grande familiale.
De Ibrahim Malouf. Mais les reprises de tous ces grands standards de Noël à la trompette, c'est un moment où vous vous posez. Le soir de Noël, vous écoutez ça et alors vous êtes détendu total. Mais là aussi, c'est pas évident de repasser derrière ce genre de...
En plus, il y a Noël pour Naël,
ouais.
Qui est un titre dédié à notre fils. Parce que c'était son premier Noël quand l'album est sorti.
Qui est en bonus tract, évidemment. Voilà. Qui est en fin de deuxième CD, de deuxième disque, pardon, vinyle, qui est magnifique. Hein,
et il n'y a pas de titre ensemble?
Non, sur cet album, non.
Là, avec l'album à l'intérieur. Mais par contre, il y en a plein.
Oui, oui.
Et on revient à l'actualité. Mais je vous voulais...
Moi, je l'invite.
Oui, oui, voilà.
Je voulais faire le...
C'est ça, ma question. Est-ce que lui aussi l'a invité sur son album?
Et ouais, elle l'invite.
C'est ça, ma question détournée.
C'est incroyable. Et tout est mélangé. On parlait... Bon, là, c'est blanc sur blanc. Évidemment, ça ne ressort pas. Mais voilà, sublime disque que je vous conseille. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de ce mélange de musique, de jeu. Il a signé une... très très belle partition du film de Claude Lelouch que j'ai adoré franchement avec notamment à l'intérieur une autre grande chanteuse que j'aime beaucoup qui est Barbara Pravi et les airs à la trompette de Ibrahim Malouf sont absolument dingues aussi donc et on vous retrouve sur scène finalement ensemble c'était important au-delà du symbole de se réunir à un moment donné tous les deux sur scène.
Oui, bien sûr. Il a même, il n'était pas que présent sur scène, il était dans les coulisses. Il m'a aidé à monter tout le show. C'est un soutien au quotidien. Après, il y avait toute la famille, il y avait toutes les personnes qui m'ont accompagnée dès le premier jour. Donc c'était important, bien sûr, qu'ils soient là.
Évidemment. Évidemment. Alors ça c'est pour le prochain spectacle, Ibrahim. Il faudra penser à renvoyer l'appareil.
Ça doit être difficile quand même de travailler comme ça, d'être dans le privé et dans le travail, non ? C'est pas compliqué.
Je pense que ça dépend des personnalités. Ibrahim, c'est un passionné et en même temps, moi je suis quelqu'un de beaucoup plus stressé que lui, déjà de base. Mais lui, il est beaucoup plus serein dans sa manière de travailler et d'aborder la scène et le travail. Donc, il me rassure énormément quand on est ensemble sur scène ou dans les coulisses, etc.
Et quand vous êtes sur scène, pour avoir vu des extraits du spectacle, c'est des moments qui sont magnifiques parce que on parlait tout à l'heure de cette classe qu'on retrouve effectivement à la fois dans le comportement et dans la voix, mais c'est vrai que Ibrahim Malouf fait aussi partie de cette famille-là, d'artistes qui arrivent avec une grande sobriété sur scène et vous voir réunis tous les deux, que l'on sache ou pas vos liens, ne change rien à ce moment qui est intense quand on vous voit et ça donne des moments qui sont assez précieux. Cet album, il vient de sortir depuis début novembre. Je vous invite vraiment à le redécouvrir, mais aussi à vous plonger dans tout le parcours de Iba. Et puis bah, Noël, la traîne, on lance la traîne sur les réseaux sociaux.
Allez, je commence ce soir.
Iba,
Alléluia.
On utilise les chansons d'Iba de Noël pour...
Alléluia de Iba.
Et vous allez voir, je pense que vous allez vraiment... comme dirait au Québec, tomber en amour pour ces chants de Noël. Mais voilà, l'album est dispo uniquement en vinyle, donc allez-y, c'est précieux. Dans un instant, on va se échanger avec toi, ma chère Soune. Je suis ravi de te retrouver ici et je trouvais que c'était important de vous avoir tous ensemble autour de ce plateau parce que je pense qu'il y a des passerelles qu'on va pouvoir faire. Mais la passerelle, ben c'est toi qui vas la faire, ma chère Lola, via ton livre dont tu vas nous parler.
Avec un immense plaisir.
Lola qui nous fait des recommandations littéraires. Et tiens, j'ai un petit clin d'œil pour toi.
Oh là là.
Ouais. Ben, parce qu'on s'est amusé avec, pour certains projets. Regarde ce qu'on a fait avec toi. On a fait un petit truc qui est sympa. On va voir la photo apparaître. Regarde. Je t'ai immortalisé en fin de Copop, écoute. Parce que je voulais pas que tu te sentes laissé par nos autres, nos autres amusements. En fin de Copop, Lola, la bibliothèque de poche sur les réseaux sociaux. Je te l'enverrai, t'inquiète pas, tu l'auras pour toi. Mais venons-en plus sérieusement à ce livre que tu avais envie de nous parler aujourd'hui. Tu nous disais que c'était un vrai coup de cœur de ce bel ouvrage dont on va voir apparaître la couverture à l'écran. Je te laisse nous en parler.
Absolument. En fait, c'est un gros coup de cœur, alors qui date d'il y a plusieurs années, que j'ai lu il y a quelques années. Mais en pensant à cette émission et en pensant à ce que tu m'avais dit, je me suis dit qu'il fallait absolument que je présente ce livre-là, qui est un très très joli livre, donc de Sabil Goussoub, qui est journaliste, qui n'est pas que écrivain, qui est aussi écrivain journaliste et qui gère un festival, et qui a surtout eu la volonté, et ça revient quand même à travers ses livres. Ici, c'est son troisième roman, qui a obtenu donc le prix Goncourt des lycéens 2022, et c'est cette volonté en tout cas qu'on retrouve dans ses livres de transmettre une parole, qui est aussi un peu, je pense, une déformation de journaliste, cette volonté de transmettre une histoire et surtout de faire parler, ici en l'occurrence ses proches, parce que Beyrouth sur scène, c'était sa volonté de faire parler ses parents. Alors c'est assez rare et je trouve que c'est une super belle initiative de permettre à ses parents de raconter leur histoire. Ici, parce qu'il était écrivain et parce qu'il était journaliste, il a décidé avec son micro d'aller les voir un jour et de leur demander s'ils voulaient bien parler et raconter leur histoire. Parce que quand on vit avec ses proches, petit à petit, alors qu'il y ait des histoires effectivement de migration, d'immigration, parfois c'est des histoires qui ne sont pas racontées et qui sont tues, soit par des grands-parents, soit par des parents. Et lui, en fait, il n'avait jamais eu l'occasion de découvrir l'histoire de ses parents, ou en tout cas à travers des petites histoires, mais jamais dans les grandes lignes. Et donc, évidemment, il est allé voir ses parents, il leur a demandé de témoigner, de raconter toute leur histoire, comment ils s'étaient rencontrés, mais aussi comment ils étaient arrivés à Paris, comment est-ce qu'ils avaient fui la guerre au Liban, quelles relations ils avaient avec le Liban d'aujourd'hui, des familles et des proches qui ont coupé les ponts totalement, d'autres qui leur écrivent régulièrement en leur donnant des nouvelles du Liban.
J'adore le texte de la quatrième de couverture.
Je t'en prie.
Et je trouve qu'il résume parfaitement. La vie de mes parents, c'est comme la guerre du Liban, plus je m'y plonge et moins je comprends quelque chose. J'arrive à situer les protagonistes, quelques moments marquants me restent, puis ensuite je me perds. Trop de dates, d'événements, de trous, de silences, de contradictions.
Et justement, ces silences-là, il a essayé de les combler un peu avec la parole de ses parents, mais qui ont vraiment joué le jeu à fond. Ils étaient tous les deux un peu comme un reportage ou un documentaire sur deux chaises. Et avec, c'est une belle transmission de eux qui vont parler à leur fils et leur fils qui leur parle et qui découvre petit à petit leur histoire et qui comprend que c'est des parents qui ont été engagés pour le Liban, qui continuent. Et c'est surtout non seulement une histoire de fond qui se dessine du Liban, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du Liban,
c'est génial. Il est né en 88, notre auteur.
Il est né en 88 et donc ses parents, juste après la guerre du Liban, sont arrivés à Paris. Et c'est très beau parce qu'on découvre l'histoire du Liban à travers la vision de ses parents et à travers la vision qu'ils ont toujours aujourd'hui. Mais c'est aussi très beau parce que, d'une certaine manière, en tout cas dans ce livre-là, c'est une manière aussi de raconter une transmission qui existe, de se dire, très bien, c'est très joli d'écrire aussi, mais c'est très joli aussi de faire confiance à ses parents, de se dire, je leur fais confiance, ils vont raconter leur histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui vont se reconnaître dans ce livre-là, dont les parents ou les grands-parents sont arrivés à Paris. Et donc, c'est un livre qui est très joli, parce que non seulement il y a cette toile de fond, mais c'est aussi une belle histoire familiale d'un homme qui a décidé de donner la parole à ses parents. Et donc, c'est un livre qui est vraiment, vraiment très beau. Et si on ne connaît pas l'histoire du Liban, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour découvrir. On revient petit à petit, c'est par ordre chronologique, sur la migration, sur la crise, sur la guerre au Liban, sur la situation actuelle du Liban. Alors c'est un livre qui date de... Enfin là, qui a eu pris cours en 2022. Donc la situation, elle a encore évolué depuis. Mais c'est très intéressant d'avoir cette porte ouverte et cette enquête familiale, mais qui devient un très très beau roman sur l'histoire du Liban.
Là, je vois, effectivement, on passe d'une page à l'autre, entre la page 137-143, on passe d'un attentat à la voiture piégée à Beyrouth en 2014 au blocus de Beyrouth, Paris 1982. Enfin, voilà, on a vraiment
c'est,
des...
C'est aussi comprendre, et ça, c'est hyper intéressant, en fait, comprendre que... Alors, lui, il est né en France et il découvre l'histoire du Liban à travers ses parents. Mais il y a aussi ses parents qui formulent quelque chose de très vrai et qui questionnent beaucoup le fait de... d'être le français au Liban et d'être le libanais à Paris. Mmh. Et de toujours être dans cet entre-deux, on n'est jamais pleinement soi, qu'on soit là-bas ou qu'on soit ici. Et cet entre-deux en se disant, bon bah, en fait, je ne sais pas si je suis pleinement moi quand je suis soit au Liban, soit à Paris, parce que je suis toujours l'autre dans le regard des gens. Et donc c'est une très belle réflexion aussi sur l'identité et sur des identités multiples, sur des nationalités multiples qu'on peut avoir et qui font plus une richesse que finalement voir l'autre à chaque fois qu'on va quelque part.
Ouais. On le rappelle, ça s'appelle Beyrouth sur scène.
Aux éditions Point.
Aux éditions Point. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec Iba de cette volonté dans ce milieu parfois de vouloir mettre des étiquettes. Mais au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, y a plein de gens aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit qui veulent nous faire croire que, grosso modo, si vous êtes français ou si vous êtes libanais, il faut choisir quoi. Il faut choisir son quartier, il faut choisir son pays, alors qu'on peut être pleinement les deux. Il en est l'incarnation et tu en es aussi un autre. Mais se battre comme ça tous les jours, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on va y venir avec toi aussi, Soune, mais est-ce que c'est compliqué, c'est difficile, ou est-ce que c'est... ou est-ce qu'en visiblement, c'est galvanisant aussi?
C'est pas facile. Après, moi, je pense que avec l'authenticité, la sincérité, l'amour... des mots simples, on peut justement exprimer ce qu'on ressent sans que ça soit vraiment dans une agressivité ou dans un combat agressif. Ça peut être parfaitement dans une manière très très humaine et très sincère, en fait,
de transmission, de revendication.
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent aussi dans ce parcours ou dans cette multiculturalité
qui est importante
et enrichissante
et qui nous nourrit tous. Et d'ailleurs, cet album, on le disait, on est en incarnation avec toutes les personnes qui passent à côté de toi sur scène. Effectivement, cette multiculturalité, multiculture au niveau des époques aussi, au niveau des influences, prouve qu'effectivement, quand on se laisse porter et baigner, ça donne quelque chose qui est très important. Et c'est vrai que le titre de Florent Pagny, Savoir aimer, que vous chantez ensemble, reprend évidemment tout son sens. Et on va continuer à l'explorer, cette thématique, avec toi, Soune Douce, et ton chemin de foi que tu viens de sortir. C'est intéressant de vous avoir ensemble à côté, parce que vous êtes toutes les deux à votre égard.
Sur les réseaux sociaux.
Et bien voilà. Mais vous êtes deux créatrices de contenu.
Je sais ce qu'elles font.
Et vous faites toutes les deux de l'anti-réseaux sociaux. C'est-à-dire
c'est
que quand on voit ce que vous faites, on ne sait pas du tout ce qu'on attend des réseaux sociaux. Pas de tuto make-up, pas de tuto un peu léger. Et avec là, tes contenus, il y a effectivement du fond, il y a de la poésie. J'ai choisi deux extraits, on va en voir un premier maintenant. Regardez quand Soune parle de ce qu'elle vit, de son expérience, ça donne ça, regardez.
Toute ma vie, j'ai essayé de rentrer dans des cases qui n'étaient pas faites pour moi. À l'école primaire, j'étais protégée par l'amour et le combat invisible de mes parents. Bercée par les rêves et l'innocence d'un enfant. Mais arrivée en secondaire dans une école élitiste, j'ai vite compris que ma différence se verrait toujours. Tout me mettait à part et m'empêchait d'entrer dans la case. Alors j'ai pris une grande respiration et je suis rentrée dans une apnée forcée pour y arriver. Je voulais pas décevoir les autres. Je me suis bien débrouillée. À l'étroit dans ma case, mais j'y étais. J'ai étudié la finance parce que c'est là qu'on m'attendait. J'ai souri à la vie et j'ai pleuré en silence. Mais mon corps, lui, a toujours voulu s'exprimer. Alors j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. Ironie du sort, j'ai même travaillé des années. C'est là que j'ai donné la vie, que ma fille est devenue ma fierté. Puis un jour, j'ai failli perdre la mienne. Pourtant, j'avais suivi le chemin qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où ma case a explosé. J'ai tout quitté. J'étais entourée, mais seule. Je voulais vivre, mais mon corps mourait. Alors j'ai levé les yeux au ciel et je me suis rappelé qu'il était là. Je lui ai parlé, je l'ai supplié de me montrer le chemin. J'ai pleuré dans mes prières, j'ai ouvert des livres, j'ai écrit. Et pour la première fois, j'ai entendu mon cœur battre. Aujourd'hui, j'aime mes épreuves, j'aime mes cicatrices, parce qu'elles m'ont mené vers ce chemin, mon chemin de vie, mon chemin de foi. Tu mérites de vivre, de trouver ta paix, ta force. Et j'espère que mon chemin de foi sera le début du tien.
Tisser des liens entre les religions, bravo.
Ouais.
Parce que dans le monde dans lequel on vit...
C'est compliqué,
ouais. Y compris de parler de religion. C'est des sujets qui sont épidermiques, qui suscitent beaucoup de choses souvent négatives. Quand on en parle, on reproche toujours à ceux qui le font de le faire. Et là, de tisser des liens entre ces religions-là, les trois religions, finalement, c'est important de rappeler qu'elles sont interliées, interconnectées.
Je dirais même plus que les trois religions. Pour moi, le but de ce livre, c'était de parler de foi, et on a tous foi en quelque chose, peu importe ses croyances. On peut être athée, on peut... peu importe, en fait, ses croyances. C'est un livre, pour moi, justement, de vivre ensemble. Et ça rebondit, hein, parce que j'écoute depuis tout à l'heure un peu tous les sujets qui sont mes sujets, mes combats du quotidien. Et en fait, je remarque que la population, les gens, la majorité des gens veulent vivre ensemble. Et on a tendance à dire, oui, que les gens ne veulent pas vivre ensemble, qu'on vit dans un climat horrible, etc. C'est vrai, mais je pense que c'est ce côté médiatique de certains médias, bien sûr, qui choisissent de montrer les disparités, les problèmes, etc. Moi, je suis à la rencontre directe des gens.
C'est vrai que le train qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne.
Exactement, exactement. Et c'est pour moi le beau côté des réseaux sociaux, c'est qu'on est nos propres médias. Et le but d'Instagram, pour moi, a toujours été celui-là. Donc, on rigole un peu en disant qu'on est des créatrices de contenu un peu différents. Après, c'est bien d'avoir de tout. Moi, j'adore regarder des créatrices de contenu.
Mais bien sûr, mais, on est tous dessus. Voilà. C'est vrai que...
Mais c'est vrai que pour moi, Instagram, c'est une plateforme de communication. C'est mon média où je prends de l'authenticité. Hein, on en parlait. Je pense que quand on a aussi cette double culture, plus on est authentique, plus on représente notre communauté. Et quand je dis notre communauté, c'est une certaine communauté aussi de la diaspora qui est justement les gens qui vivent, qui sont trop ici et pas assez là-bas, comme je dis toujours. Mais c'est un livre qui a été lu par des chrétiens, des personnes athées, et le message est le même en fait. C'est merci. Et mon message est vraiment de dire ce qui m'a sauvé la vie, c'est ma foi. Je ne rentre pas dans les détails religieux parce que je n'ai pas les connaissances de théologie nécessaires et que ce n'est pas le but du livre. Le but, c'était de parler d'amour, de foi et d'un ancrage dans ma vie qui m'a aidé à me relever et à traverser certaines épreuves. Et je vois que mes textes sur les réseaux sociaux aident les gens justement à aller mieux. Je le vois dans les commentaires, je le vois dans les messages que je reçois. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre qui va permettre ça. Et à ma grande surprise, évidemment, un peu naïve et dans ma vie, ma vision utopique, je n'avais pas attendu. C'est un peu naïf de ma part, mais je n'avais pas pensé aux conséquences, qui est, je parle de foi, mais comme c'est un livre de témoignage, c'est important pour moi de faire un livre de témoignage parce que je ne veux pas parler à la place des autres, ce qu'on fait trop souvent. Mais du coup, je suis musulmane et donc indirectement, je parle d'islam et ça dérange.
Parce que tu disais tout à l'heure, les gens, beaucoup de gens de confessions différentes ont lu le livre. Mais c'est un peu comme aller au cinéma. Quand on va au cinéma, on choisit d'y aller, on choisit de se déplacer, on va au théâtre, on va dans une salle de spectacle, on choisit d'aller voir les gens. Quand on achète un livre, c'est pareil. On choisit de faire la démarche.
Bien sûr.
Par contre, l'exercice qui arrive derrière de promouvoir le livre fait que d'un seul coup, on doit beaucoup plus s'exposer et on doit véhiculer un discours qui accompagne la sortie du livre. Et là, d'un seul coup, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, on est assimilé à faire du prosélytisme. Et c'est compliqué à savoir comment on se positionne. Toi qui parles souvent de voix dans tous les sens du terme, VOX et VOIE, est-ce que c'est facile de se dire comment je me positionne pour que le message passe au-delà de ce que je représente?
C'est très facile parce qu'en fait, c'est l'authenticité. Ce qui est dans mon livre, c'est ce que je représente. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la parole. C'est là que j'explique la différence avec un roman et mon livre aujourd'hui, que je remarque. Tiens, c'est bizarre, on n'est pas invité. Ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? J'ai même un média où à l'antenne, ils ont reconnu avoir hésité à m'inviter parce qu'ils disent « Ah oui, mais comme t'es musulmane, islam, foi, etc., ta tête sur la couverture. » Malheureusement, on vit dans un climat où certains médias, je précise, hein, parce que je suis là aujourd'hui quand même, où certains médias ne veulent pas donner une image positive d'une femme, comme Iba aussi, d'une femme moderne, ambitieuse, qui a fait des études, qui veut le vivre ensemble, qui tolère tout le monde et qui veut être tolérée par tout le monde. Quand on fait autre chose, ça va. Mon roman, ça va. Ma musique, maintenant, ça va. Mais quand on parle de foi, et que donc indirectement c'est associé à l'islam, ça bloque. malheureusement.
Ce qui est hyper injuste, parce que quand on regarde un peu la littérature française et les livres qui sont mis en avant, il y a un nom incalculable de livres classiques qui parlent de la foi chrétienne. Et là, quand on regarde, ça ne dérange personne.
Ouais.
Donc c'est, la question de la foi, elle est au cœur de la littérature aujourd'hui. Et ça ne bloque pas quand c'est une foi chrétienne. Et ça bloque pour le reste, ce qui est hyper injuste. Parce qu'on continue à parler de foi tout le temps.
Ça ne bloque pas pour le reste. Tu peux mettre en avant...
Non, mais ce qui bloque sur les invités, par exemple, sur les médias,
ça bloque pour les musulmans.
Ah oui, non,
mais... c'est juste ça.
C'est vraiment ça.
Oui, effectivement. Ouais.
Voilà, hormis les émissions religieuses du dimanche matin, il n'y a pas d'endroit où il y a de l'expression.
Bah, c'est exactement ça, en fait.
C'est hyper injuste.
C'est exactement ça. Et moi, je garde foi, toujours, en l'humain. Je suis là aujourd'hui, je vous remercie d'ailleurs. Je pense au partage des gens qui vont le lire et qui vont partager. Il mettra peut-être plus de temps à s'installer, mais il est là et il existe. Et je remercie, j'ai lu aussi qu'il y a une grande maison d'édition qui a voulu mettre cette image en avant et qui a voulu dire, on aimerait que tu sois une figure en fait d'accroche pour les gens. Des messages que je reçois souvent, c'est des femmes qui sont très croyantes, qui ont beaucoup la foi, mais qui sont jugées aussi par la communauté un peu extrémiste musulmane et qui ne se sentent pas légitimes de dire « je suis musulmane, j'ai la foi, c'est ce qui m'aide » parce qu'elle s'habille comme ci ou elle s'habille comme ça. Et donc moi, mon rôle, ma volonté, elle est double. Elle est envers ceux qui sont islamophobes, mais aussi ceux qui sont radicalisés et qui n'acceptent pas une figure comme la mienne. Parce qu'en fait, je suis acceptée un peu... C'est un peu comme entre la Belgique et le Maroc. Mais ici, c'est entre les radicaux et les islamophobes. Et de dire, c'est pas OK, en fait. Parce que 85, j'invente un chiffre. Hein, c'est pas une étude qui a été faite. vu qu'on a le droit d'inventer des chiffres maintenant. 85% des femmes musulmanes en France, en Belgique, sont comme moi, en fait, sont comme nous. Enfin, je veux dire, c'est les images qu'on aime montrer dans les médias ne représentent pas notre communauté.
Mais le fait de s'exposer en tant que femme, d'ailleurs, parce que souvent, alors je parle, alors, le Liban est un exemple intéressant, parce que je suis sûr que pour beaucoup de gens qui sont un peu arrêtés, dès qu'on parle du Liban, c'est que forcément on est musulman. On oublie que c'est certainement l'un des pays au monde où il y a une espèce de pluralité religieuse incroyable. Mais d'être une femme et de s'exposer, notamment quand on est une femme et qu'on parle de foi, pas de religion, mais de foi, est-ce qu'on accepte cette petite prise de risque? Parce qu'en 2025, encore une prise de risque.
Bien sûr, après, être sur les réseaux sociaux, c'est déjà une prise de risque. Donc, on a l'habitude, après un certain nombre d'années, d'avoir de tout. Après, il y a quelque chose d'assez magnifique, en tout cas moi, dans mon parcours, c'est que je n'ai jamais vécu de bad buzz, ni médiatique, ni sur les réseaux sociaux.
Attends, on va t'en faire un.
Et oui, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer. Mais je pense aussi...
T'en prépares un, tu vois.
Je pense aussi que souvent, les gens attaquent... Les gens qui attaquent aiment bien attaquer... c'est des personnes faibles hein, qui attaquent de toute manière. Et donc, vont s'en prendre à quelque chose de facile. Je pense que... Ce que je poste ne permet pas d'ouvrir la porte à des personnes. Voilà, elles savent que je vais répondre et qu'elles vont. Enfin, je pense. En tout cas, que ce soit sur TikTok, Instagram,
malheureusement,
j'ai jamais eu de mauvaise.
Malheureusement, ceux qui veulent rentrer, ils trouveront toujours un moyen de rentrer si la fenêtre est fermée. Malheureusement, c'est ça qui est absolument terrifiant. Avant de refermer cette émission, on va voir un dernier extrait de tes vidéos pour pouvoir en parler, pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ce parcours et ce que les gens vont pouvoir retrouver dans ce livre. Regardez, c'est toujours sur le compte Instagram de Sounou.
T'as sûrement déjà vécu une rencontre qui a tout changé, qui t'a ouvert des portes que tu n'aurais jamais imaginées, ou un livre qui est arrivé dans tes mains juste au moment où tu en avais besoin. T'as déjà agi sans réfléchir avec le cœur, et cet acte a illuminé ta journée. Ces petits signes paraissent anodins, mais au fond tu sais qu'ils ne le sont pas. Et si c'était ça aussi, un miracle ?
Pour ce petit...
Ça résume assez bien. Hein.
Ça résume bien.
Universel et voilà, c'est une histoire pour moi d'ancrage dans une vie et une main tendue pour les gens qui sont pas très bien. Ça arrive beaucoup là en fin d'année. Ils arrivent sur mon compte en masse en fin d'année, ils vont très mal. Et donc l'idée, c'est vraiment un message d'amour, de vivre ensemble et voilà.
Au-delà de ce message, pour terminer, parce que c'est encore le cas en 2025, c'est important d'être un symbole féminin fort. Quel que soit votre parcours, quel que soit votre véhicule, quel que soit le message que vous transmettez toutes les deux, d'être des modèles féminins pour des petites filles qui grandissent, peut-être au Liban, en voyant Iba, en se disant, bah ouais, moi aussi, demain, j'y arriverai, moi aussi, je serai quelqu'un, moi aussi, je vais y arriver.
Je pense que en étant sous les lumières, exposée, il y a une certaine responsabilité vis-à-vis de des générations un peu plus jeunes. Mais on a tous nos failles, on a tous nos faiblesses, nos forces, notre vulnérabilité, nos doutes. On n'est pas juste uniquement des femmes fortes. On est en fait, on est parfois fortes, on est parfois pas du tout fortes en fait.
Et c'est pas grave.
Et c'est pas grave. Je pense que c'est ça ce que j'essaye de peut-être communiquer, c'est que c'est pas parce que on est connu ou bien qu'on a une carrière exposée comme ça médiatiquement que on est forcément il y a un côté parfait, un côté fort. On est tous pareils. On a nos failles, on a nos doutes, on a nos moments de faiblesse aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive peut-être à toucher toutes ces jeunes filles peut-être qui ont un peu plus de mal que d'autres.
Et moi, c'est pour ça que j'aime être authentique sur les réseaux sociaux et partager mes galères, même plus que mes succès. Parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'authenticité. On aime bien montrer toujours une image très lisse, des carrières réussies, les victoires, partager les victoires avec les gens. Mais je pense que le parcours, le chemin est tout aussi important que le résultat ou l'échec, qui est une expérience finalement. Et avant d'être une figure de femme belgo-marocaine ou franco-marocaine, on est avant tout des femmes. Et être une femme aujourd'hui, c'est difficile, il faut le dire. Donc moi, j'ai envie de mettre plus en avant le côté...
Alors belge en plus.
Alors belge en plus et avec un léger accent. Mais du coup, j'ai vraiment envie de mettre plus en avant femme en fait et d'oublier tout le reste et de dire, de montrer aux femmes. J'ai beaucoup aimé ce que Iba a dit tout à l'heure. Sur le fait de pouvoir avoir plusieurs casquettes, de montrer aux gens qu'on ne... c'est fini les cases en fait aujourd'hui. Même un artiste, pour vivre, il a besoin de faire plusieurs choses. Et moi, c'est aussi quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que je sors mon premier single justement le 17 décembre, comme ça vous savez. Ça approche. Mais de dire, j'étais dans la finance et aujourd'hui, ben, je sors un livre, je sors un single et c'est ok. Peut-être que ça ne va pas fonctionner, mais ce n'est pas grave, c'est le process qui compte. Et de dire aux gens, si vous êtes malheureux dans votre vie, oser échanger et croyez en vous.
Et c'est tellement inspirant aussi de voir des femmes fortes, y compris quand on est des hommes. C'est important, c'est aussi, parce que bah oui, on n'est pas obligé
de s'identifier. Merci Alexandre. Merci.
On n'est pas obligé de s'identifier qu'à des hommes forts, surtout quand on voit ce que des fois ça donne. Donc c'est important aussi d'avoir ces figures de femmes fortes. Et à travers votre parcours, à travers votre message à toutes les deux, évidemment on pense à toutes ces femmes dans le monde qui se battent, mais avec une pensée particulière, notamment pour ces pays qui vivent des choses qui sont terribles. Je pense aux femmes en Iran qui se battent depuis des années pour faire entendre leur voix, puisqu'on parlait de voix avec toi, et puis même au Liban qui traverse des choses terribles depuis de nombreuses décennies. C'était important de pouvoir le véhiculer et je trouve que vous êtes deux très beaux exemples de ce dont on a besoin aujourd'hui.
Merci.
En 2025. Je rappelle mon chemin de foi chez Faust, que vous pouvez retrouver et qui est disponible partout. Le single donc le 17 décembre prochain chez Universal Music, pas mal. Et puis voilà, je rappelle aussi ce magnifique vinyle de Iba à l'Olympia en 2024 avec Madame, Monsieur, Florent Pagny, Icar, Lara Fabian et Ibrahim Malouf. Comme ça, vous pouvez... voilà, je n'ai pas été payé par la famille, mais vous avez à Noël et puis l'album de Noël de Iba.
Et la traîne de Noël, nous,
la traîne
pas
de Noël
ce soir.
On va la lancer, les amis.
On va la lancer ce soir.
C'est parti. J'avais encore des choses à vous présenter. On n'a plus le temps. Je vous le prendrai dans la prochaine émission du club. Mais merci beaucoup. Merci Lola pour ce livre aussi, Beyrouth sur scène. C'était un plaisir. Merci Soune d'être revenue deux ans après.
Merci.
Et puis bah, j'étais ravi de te recevoir. Je le disais, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ton parcours et de revenir un petit peu sur cette belle expérience. Et on te souhaite le plus beau succès à travers le monde entier dans ta grande et belle carrière qui ne fait que démarrer, il faut bien le dire. Merci, bah, merci à toutes vos équipes, parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde en régie que pour vous accompagner. Donc c'est un vrai plaisir. Merci à tous celles et tous ceux qui sont derrière et que je vois, je devine. Merci à Nico qui était à la réalisation. Les portes du club se referment. On se retrouve avant les fêtes pour refermer cette saison. On revient en janvier, hein, je vous rassure. Et puis on sera là aussi le 24 et le 25 décembre pour des émissions spéciales. Bref, tout va bien.
Magnifique.
Merci à tous. Belle fin d'année.
Merci.